Goodbye Columbus a connu un certain succès, mais pas commercial.
Philip Roth.
Mais 8 mois après sa sortie, j'ai gagné le National Book Award. C'est ce prix qui m'a donné un certain statut. Goodbye Columbus était une réponse spontanée et immédiate au milieu dont je venais.
Ça peut pas faire de mal.
Mais certains se sont sentis offensés et des rabbins ont fait leur sermon en me traitant d'antisémite. Je suppose que ce qu'ils détestaient dans Goodbye Columbus, c'est qu'on y voyait un homme juif d'un certain âge qui commettait un adultère et une fille juive qui mettait un diaphragme pour faire l'amour.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Loin d'être l'âge des révoltes et des tourments, comme le voudrait la tradition, mon adolescence fut plutôt une période d'attente. Une période du suspens. Après une enfance pleine d'exubérance, dont l'ardeur triomphante contraste avec le drame que vivait alors l'Amérique engagée dans la Seconde Guerre mondiale, je devais beaucoup m'assagir jusqu'à ce que je rentre à l'université en 1950. Je crois cependant n'avoir jamais goûté en ces années un sentiment de plus grande liberté que dans les propos que nous échangions entre garçons, des heures durant, à l'intérieur d'une automobile. Les amitiés ferventes étaient le meilleur de l'adolescence, non seulement à cause du sentiment libérateur qu'elles pouvaient inspirer à des garçons qui avaient vécu jusqu'alors à l'étroit dans le giron familial, mais parce qu'elles leur laissaient tout loisir de parler sans crainte de remontrance. Les interminables conversations que nous pouvions tenir, où l'aventure tant désirée donnait lieu souvent à d'âpres débats quand on ne se livrait pas à toutes sortes de plaisanteries sans queue ni tête, ces conversations se déroulaient ordinairement dans l'espace exigu d'une voiture en stationnement. 2, 3, 4 ou 5 d'entre nous enfermés dans cet enclos d'acier qui avait à peu près les dimensions d'une cellule et à l'instar des détenus, coupés du commun des mortels. Les plus proches compagnons de mon adolescence, juifs comme moi intelligents et bien polis, tous 4 devenus par la suite des médecins prospères, ne jetteront peut-être pas le même regard rétrospectif sur ces marathons oratoires. Mais en ce qui me concerne, je ne peux m'empêcher d'associer à mon travail d'aujourd'hui ce qui était alors notre plus riche aliment et où se mêlaient vantardises et racontards, piques et railleries, contestations et affabulations, tout ce dont notre esprit se saisissait pour mieux nous divertir. Et puis cette parole ivre de mots était pour nous le moyen de tirer vengeance ou d'ôter l'aiguillon des forces culturelles qui nous façonnaient. Au lieu de voler les voitures d'étrangers, nous nous tenions dans celles que nous avions empruntées à nos pères et là nous proférions les choses les plus folles qu'on pût imaginer. Ce marathon oratoire, cette ivresse des mots, a nourri l'un des best-sellers et des grands scandales de la littérature américaine, le provocant Portnoy et son complexe, du romancier génial Philip Roth. Né en 1933 à Newark, à l'ouest de New York, l'écrivain publie en 1959, à l'âge de 26 ans, son premier recueil de nouvelles, Goodbye Columbus, qui choque par son ironie féroce. 10 ans plus tard, en 1969, il signe avec Portnoy son 4e roman. En pleine révolution des mœurs, le récit des déboires sexuels de ce garçon juif, tyrannisé par sa mère, a provoqué les foudres de la critique tant dans le milieu littéraire, où le roman est taxé d'obscénité, que dans l'intelligentsia juive, où il est condamné pour antisémitisme. Passé maître dans l'art de mêler fiction et autofiction, Philip Roth se défend ainsi, je cite, le roman en forme de confession qu'était Portnoy fut unanimement jugé comme une confession en forme de roman. Or, pour un écrivain, créer l'illusion de la vie ne consiste pas à se laisser aller à ce qu'on est, mais à inventer une nouvelle manière d'être. Car tel est le vrai sujet de Portnoy, s'inventer une nouvelle vie, s'affranchir de sa famille, avec les seuls moyens à disposition d'un adolescent, les fantasmes débridés d'un corps qui étouffe sous les dictats de la bonne éducation. Écrit sous la forme d'un long monologue, ce roman de la quête de soi passe par la conquête de la parole. À 33 ans, Alexander Portnoy, devenu un brillant avocat, entreprend une psychanalyse et livre ses souvenirs les plus cocasses. découvrant ce flot de paroles débordant de libido que le jeune homme adresse à un certain docteur Spielvogel, étrangement réduit au silence. Ouvrons le livre et faisons connaissance avec la famille de notre jeune héros. Si le roman a fait scandale, c'est parce que l'un des premiers mythes qui l'attaque est la toute-puissance des mères juives. Voici l'une des scènes traumatisantes où l'enfant, terrorisé à l'idée d'avoir commis une faute, est condamné à la pire des sanctions, l'abandon maternel. Extrait du chapitre intitulé « Le personnage le plus inoubliable que j'ai jamais rencontré ». Mais qu'est-ce que j'ai donc fait ? Je cire tous les soirs mes souliers au-dessus d'une page du journal de la veille, soigneusement dépliée sur le linoléum. J'enroule le tube de dentifrice par la base. Je me brosse les dents en cercle et jamais de haut en bas. Je dis merci, je dis je vous prie de m'excuser et est-ce que je peux ? Jamais je ne mange de milchik dans un plat de fleischik. Jamais, jamais, au grand jamais. Et pourtant, durant environ une année de ma vie, il ne s'écoule pas un mois sans que je commette une action si inexcusable que l'on me dit de préparer mon baluchon et de partir. Mais de quoi pouvait-il s'agir ? Maman, c'est moi le petit garçon qui, avant la rentrée des classes, passe des nuits entières à calligraphier les noms des matières au programme et qui colle patiemment des œillets pour renforcer les feuilles perforées avec ou sans ligne dans la quantité voulue pour un trimestre. Jamais mes chaussettes mi-bas ne tombent sur mes chevilles. J'y veille avec soin. Mes devoirs sont faits des semaines à l'avance. Regardons les choses en face, maman. Je suis le petit garçon le plus intelligent et le plus soigné de toute l'histoire de mon école. Les institutrices, comme tu le sais, comme elles te l'ont dit, n'est-ce pas, rentrent chez elles retrouver leur mari heureuse à cause de moi. Alors qu'ai-je donc fait ? Que celui qui connaît la réponse à cette question veuille bien se lever. Je suis si infernal qu'elle ne me supportera pas dans la maison une minute de plus. Lorsqu'un jour j'ai traité ma sœur de gros caca, on m'a, séance tenante, lavé la bouche avec un morceau de savon noir pour la lessive. Ça encore, je le comprends, mais le bannissement, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Parce qu'elle est bonne, elle veut bien me préparer un casse-croûte à emporter, mais ensuite je dois partir avec mon manteau et mes caoutchoucs, et ce qui peut se passer ne la regarde pas. « Très bien, dis-je, si tu le prends comme ça, car j'ai le goût du mélodrame, moi aussi je n'appartiens pas pour rien à cette famille. J'ai pas besoin de casse-croûte, j'ai besoin de rien. Je ne t'aime plus, je n'aime plus un petit garçon qui se conduit comme tu le fais. Je vivrai seul ici avec papa et Anna, » dit ma mère, maîtresse vraiment dans l'art de donner à ses propos un tour assassin. « Anna peut préparer le jeu du mahjong pour les dames le mardi soir, nous n'aurons plus besoin de toi. » Je m'en fiche. Et passant la porte, je me retrouve dans le long couloir mal éclairé. Je m'en fiche. Je vendrai des journaux dans les rues, pieds nus. J'irai où je voudrais, à bord des wagons de marchandises, et je dormirai dans les champs. J'imagine, mais il suffit que je voie les bouteilles de lait vides rangées près de notre paillasson pour prendre cruellement conscience de l'immensité de tout ce que j'ai perdu. Je te déteste. Je braille en décrochant un coup de pied dans la porte. Tu me dégoûtes. Sur ces horreurs, sur cette hérésie qui retentit dans les couloirs de l'immeuble où elle rivalise avec 20 autres femmes juives pour gagner le titre de sainte patronne du sacrifice de soi, ma mère n'a pas d'autre choix que de verrouiller notre porte à double tour. C'est alors que je me mets à cogner pour qu'on m'ouvre. Je me laisse tomber sur le paillasson pour implorer le pardon de mon péché qui, une fois de plus, consiste en quoi ? Et pour lui promettre d'être absolument parfait jusqu'à la fin de nos existences, qu'à cette époque-là, je crois éternelle.
Ma mère adore m'humilier, et par tous les moyens, et même quand j'étais gosse. Tenez, quand on allait ensemble faire des courses, eh bien, elle parlait si fort, et d'ailleurs c'est toujours pareil, elle aboie, c'est odieux, c'est...
Vous réagissez encore comme un enfant. Vous devez voir votre mère avec plus d'humour.
Ça, j'y arriverai jamais, hein, y a rien à faire. Elle est toujours à m'engueuler pour tout, ou alors elle me dit que j'ai une tête d'enterrement, et elle critique tout, comment dire ça, je l'adore. Mais je voudrais vraiment qu'elle disparaisse.
Quittons l'enfance et abordons l'âge ingrat. Élève précoce, Alexander entre au lycée à l'âge de 12 ans. Issu d'une famille d'émigrés, le garçon rêve de devenir champion de baseball afin de réaliser le rêve américain de son père, s'intégrer à la classe dominante des Américains blancs protestants, ceux-là même qui dirigent la compagnie d'assurance. En attendant ce jour de gloire, voici notre jeune héros devenu champion toute catégorie d'autres exploits, intimes et honteux, qu'il réalise dans le plus grand secret. Extrait du chapitre intitulé « La branlette ». Si seulement j'avais pu me restreindre à une branlette par jour ou me limiter à deux, voire trois, mais j'avais entrepris de battre de nouveaux records. Avant les repas, après les repas, pendant les repas.
À table, pendant le dîner, je bondis et m'agrippant le ventre à deux mains d'un air tragique, je m'écris « La colique ! J'ai une colique terrible !» Une fois derrière la porte verrouillée de la salle de bain, je me passe par-dessus la tête une culotte que j'ai volée dans la commode de ma sœur et que je trimballe enroulée dans un mouchoir au fond de ma poche. Si foudroyant est l'effet de cette culotte de coton contre ma bouche, si foudroyant est l'effet du simple mot « culotte », que la trajectoire de mon foutre atteint de nouvelles altitudes sidérantes. Jaillissant comme une fusée, il file droit vers l'ampoule électrique du plafond où, à ma surprise horrifiée, il fait mouche et reste suspendu. D'abord affolé, je me protège la tête, m'attendant à une explosion de verre, un jet de flamme. Le désastre, voyez-vous, n'est jamais bien loin dans mon esprit. Puis, en faisant le moins de bruit possible, je grimpe sur le radiateur et recueille le grésillant Glavio avec une boule de papier hygiénique. Je commence un examen scrupuleux du rideau de douche, de la baignoire, du carrelage, de quatre brosses à dents, Dieu m'en préserve, et au moment où je vais ouvrir le loquet, m'imaginant que je n'ai laissé aucun indice derrière moi, mon cœur tressaille à la vue de ce qui s'accroche comme une morve à la pointe de mon soulier. Je suis le Raskolnikov de la branlette. La preuve poisseuse est partout. Est-ce qu'elle est aussi sur mes manches, dans mes cheveux, dans mes oreilles? Telles sont les questions que je me pose tandis que je retourne vers la table de la cuisine, l'air bizarre et renfrogné, pour grogner sur un ton de vertu offensé à l'adresse de mon père qui ouvre sa bouche pleine de gelée et déclare « Je ne comprends pas ce que tu as à t'enfermer comme ça, ça dépasse mon entendement. C'est quoi ici? La maison ou la gare de Grand Central ?» Mon intimité, un être humain dans cette baraque, jamais. Je rétorque, puis je repousse mon dessert pour glapir. Je ne me sens pas très bien. Vous pouvez vraiment pas me laisser tranquille, tous. Après le dessert, que je termine parce qu'il se trouve que j'aime bien la gelée, même si eux, je les déteste. Après le dessert, me voici de retour dans la salle de bain. Je farfouille dans le linge sale de la semaine jusqu'à ce que je déniche un des soutiens-gorge de ma sœur. J'en accroche une bretelle de coton au bouton de la porte et l'autre à celui du placard à linge. Oh, épouvantail, apte à susciter de nouveaux rêves. Soudain, un journal roulé en tube claque contre la porte de la salle de bain et me fait sursauter, moi et mon engin dans la main, à 3 centimètres au-dessus du siège des water. « Dis donc, si tu laissais une seconde la cuvette aux eaux, tu veux ?» lance mon père. Je récupère mon équilibre comme je sais le faire, avec un accès de susceptibilité blessée. « J'ai une colique horrible! Tout le monde s'en fiche dans cette maison ou quoi ?» Dans le même temps, je reprends mon va-et-vient et même j'accélère le tempo tandis que mon organe est miraculeusement repris d'un frémissement centrifuge. Alors le soutien-gorge d'Anna commence à bouger, à osciller de ci, de là. Je me voile les yeux et regardez. Voilà Léonore Lapidus qui en a la plus grosse paire dans ma classe. La voici en train de courir pour attraper le bus après l'école. Avec son opulent et intouchable fardeau qui tangue lourdement sous sa blouse. Oh, je les adjure de jaillir hors de leur bonnet et de passer par-dessus les bords. Les véritables nichons de Léonore Lapidus. Et je me rends compte pendant la même fraction de seconde que ma mère est en train de secouer avec vigueur le bouton de la porte. De la porte que j'ai finalement oublié de fermer. Je savais que ça arriverait un jour. Me voilà pris. Autant dire la mort. Ouvre Alex, je veux que tu ouvres immédiatement. La porte est fermée, je me suis pas fait prendre. Et je constate d'après ce qui vit dans ma main que je ne suis pas tout à fait mort. « Alex, réponds-moi maintenant. As-tu mangé des frites à l'école? C'est pour ça que tu es malade comme ça? Non, non, non !»« Alex, tu souffres. Tu veux que j'appelle un docteur? Tu souffres ou pas? Je veux savoir exactement où tu as mal. Réponds-moi. Alex !» Alex, je ne veux pas que tu tires la chasse. Je veux voir ce que tu as fait. C'est surtout liquide ou surtout du gros popo? Arrête, maman, je suis au lycée. Et moi, ça fait une semaine que j'ai les intestins bloqués, rajoute mon père. Au même moment, je me dresse en vacillant du siège des water où je suis juché, avec le gémissement d'un animal battu. J'émets 3 minuscules gouttes dans le minuscule bout de tissu dont ma grande sœur de 18 ans à la poitrine plate couvre le peu de téton qu'elle a. C'est mon 4e orgasme de la journée. Philippe Roth.
Ce qu'il faut dès le début, c'est d'abandonner toute forme d'autocensure. Faire tout ce qu'on a envie de faire. Avoir honte n'a aucun sens quand vous écrivez. Faut oublier tout sentiment de honte. Ne pas se demander si ce que vous écrivez est convenable. Ça ne veut pas dire qu'il faut être obscène. Mais avoir honte, jamais. Je n'aurais pas pu écrire le théâtre de Sabbat si je m'étais censuré. Je n'aurais rien écrit. Mais n'allez pas croire que dans ma propre vie, je n'ai pas d'inhibition. Je suis comme tout le monde. Mais quand je m'assois pour écrire, je me libère complètement.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Hélas, le plaisir solitaire laisse un goût amer. Publié en 1969, année érotique par excellence, Portnoy s'inscrit dans le mouvement de libération sexuelle qui a marqué toute une génération. Grand ami de Philippe Roth, Milan Kundera écrit à ce sujet dans un essai intitulé « Une rencontre »« Tout est permis ». Et le seul ennemi est notre propre corps, dénudé, désenchanté, démasqué. Philippe Roth est un grand historien de l'érotisme américain. Il est aussi le poète de cette étrange solitude de l'homme abandonné face à son corps. Revenons à Alexander et retrouvons notre héros un peu plus tard, terrassé par la culpabilité. D'autres souvenirs liés à la scène précédente lui reviennent. Nous voici à nouveau en plein mélodrame. Pourquoi dois-je toujours en souffrir à ce point, si longtemps après ? Docteur, de quoi devrais-je me débarrasser, dites-moi ? De la haine ou de l'amour ? Tous ces souvenirs qui me traversent soudain l'esprit avec une telle acuité que pour un instant je ne suis plus dans le métro ou à mon bureau ou en train de dîner avec une jolie fille, mais replongé dans mon enfance avec eux. Des souvenirs de choses pour ainsi dire insignifiantes et qui m'apparaissent pourtant comme des moments de mon histoire si cruciaux. Il y a bien d'autres souvenirs comme celui-là, docteur. Quantité d'autres. Voilà le père et la mère dont je vous parle. Mais, que je reprenne mes esprits. Il y a aussi cette vision de lui émergeant des water, toujours constipé, en train de se triturer sauvagement la nuque. Bon, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent que tu ne pouvais pas attendre que je sois sorti pour me le dire ? « Rien, répond ma mère, c'est réglé. Terminé et classé grâce à Dieu. Et toi, tu as réussi à te débloquer les intestins ?» lui demande-t-elle. « Non, bien sûr, ils se transforment en béton. Voilà ce qui va se passer. »« Parce que tu manges trop vite. »« Je ne mange pas trop vite. »« Tu manges comme un cochon. » »« Et quelqu'un devrait bien te le dire. »« Je passe toute la journée debout dans cette cuisine. »« Et tu manges comme s'il y avait le feu quelque part. »« Et celui-là qui a décidé que ma cuisine n'était pas assez bonne pour lui... » Il préfère être malade et me flanquer des peurs bleues. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne veux pas te tracasser, dit-elle. Ne pensons plus à tout ça. Mais elle en est incapable et voilà que c'est elle maintenant qui se met à pleurer. Bon, elle n'est sans doute pas la personne la plus heureuse de la Terre. Elle était autrefois une espèce de grand échalas que les garçons appelaient la rouquine au lycée. Quand j'avais 9 ou 10 ans, je nourrissais une passion sans limite pour son yearbook du lycée. Il était écrit « Sophie Grinsky, les gars l'appellent la rouquine, elle ira loin avec ses grands yeux bruns parce que c'est une maligne ». et c'était ma mère. « Il mange des frites !» déclare-t-elle. Et elle s'effondre sur une chaise de cuisine pour verser toutes les larmes de son corps. Après la classe, il va avec Melvin Weiner et se bourre de frites. « Jack, dis-lui, toi, moi je ne suis que sa mère. Dis-lui comment ça va finir !»« Alex !» enchaîne-t-elle avec passion, tournée vers moi qui cherche à me glisser hors de la pièce. « Ta télé ! Ça commence par la colique, mais tu sais comment ça finit ? Avec un estomac fragile comme le tien, tu porteras un sac en plastique pour faire ta grosse commission dedans !» Qui, dans toute l'histoire du monde, s'est montré le moins capable d'affronter les larmes d'une femme ? Mon père et moi en second. Il me dit « Tu as entendu ta mère ? Ne mange pas de frites avec Melvin Weiner après la classe. »« Ni après la classe, ni jamais !» supplie la mère. « Ni jamais !» dit mon père. « Ni des hamburgers ailleurs qu'ici » adjure-t-elle. « Ni des hamburgers ailleurs qu'ici » dit-il. « Des hamburgers !» répète-t-elle avec amertume, exactement comme si elle disait Hitler, dans lesquels ils peuvent fourrer tout ce qui leur passe par la tête. Et lui, il les mange. « Jack, fais-lui promettre avant qu'il s'attire un terrible tsura et que ce soit trop tard. « Je te le promets !» Je hurle « Je te le promets !» et je me précipite hors de la cuisine pour aller où ? Quelle question ! Docteur Spielvogel, c'est ma vie. Ma seule vie. Et je la passe au milieu d'une blague juive. Je tiens le rôle du fils dans une blague juive. Seulement, ce n'est pas une blague. Dites-moi, je vous en prie, qui nous a handicapés ainsi ? Qui nous a rendus si morbides, si hystériques et si faibles ? Pourquoi ? Pourquoi n'arrête-t-il pas de hurler « Attention, ne fais pas ça !»« Alex, non !» Et pourquoi, seul sur mon lit à New York, est-ce que je continue à mastiquer désespérément le bâton ? Docteur, comment appelez-vous mes maladies ? Est-ce la souffrance juive dont j'ai si souvent entendu parler ? Est-ce pour moi l'héritage des pogroms et des persécutions ? De la dérision et du discrédit dont nous ont abreuvé les goyes au cours de ces 2000 délicieuses années ? Oh, mes secrets, mes palpitations, mes fièvres, mes transpirations, docteur, je ne peux plus supporter de m'affoler comme ça pour rien. Faites de moi un homme. Rendez-moi courageux, rendez-moi fort, rendez-moi complet. J'en ai assez d'être un gentil petit garçon juif qui s'efforce en public de contenter ses parents, tandis qu'en privé, il se bricole le paf. Assez. Mais les plaintes sont stériles et bientôt la situation s'envenime. À 13 ans, à l'occasion de sa bar mitzvah, Alexander laisse éclater sa colère. Il renie sa religion, sa famille et reproche à ses parents leur racisme. Par provocation, il s'auto-proclame athée et communiste et prend la défense de leur femme de ménage qui est noire. Voici l'un des passages les plus virulents du livre qui a provoqué un scandale au sein de la communauté juive. Extrait du chapitre « Le blues juif ». Nom de Dieu, mère, le monde entier le sait déjà, alors pourquoi pas toi ? La religion est l'opium du peuple. Et si le fait de croire, ça fait de moi un communiste de 14 ans, alors oui, je le suis. Et je suis fier de l'être ! Je préférerais mille fois être un communiste en Russie plutôt qu'un juif dans une synagogue. Voilà aussi ce que je lance à mon père en pleine figure. Encore une grenade dans les tripes. Voilà le résultat obtenu, il ne quitte plus les Water. Je m'en doutais d'ailleurs assez. Mais je regrette, il se trouve que je crois aux droits de l'homme, étendus à tous les hommes sans distinction de race, de religion ou de couleur. C'est mon communisme, en fait, qui explique pourquoi je tiens maintenant à manger avec la femme de ménage quand je rentre à la maison le lundi et que je vois qu'elle est là. Je vais manger avec elle, mère, à la même table et la même nourriture, est-ce clair ? Et non pas dans mon coin sur une assiette de verre spéciale qui n'absorbe pas ces microbes. Mais non, non, mère ne comprend pas. Apparemment. Manger avec les Schwarzi, qu'est-ce que je veux bien raconter ? Mais oui, mère, je ne traiterai aucun être humain, en dehors de ma famille, comme un inférieur. Tu ne veux donc rien piger au principe d'égalité, bon Dieu. Et je te préviens, si jamais il utilise à nouveau devant moi le mot nègre, je lui enfonce une vraie lame dans son putain de cœur farci de préjugés. Est-ce bien clair pour tout le monde ? Nous n'avons pas tous eu la chance de naître juifs, figure-toi. Alors un peu de compassion pour les moins favorisés, d'accord ? Parce que j'en ai jusque-là ! J'en ai ma claque des goy par-ci et des goy par-là. Si c'est mal, c'est les goyim. Si c'est bien, c'est les juifs. Vous ne voyez donc pas, mes chers parents, qu'une telle façon de penser est légèrement barbare, que tout ce que vous exprimez, c'est votre peur La première distinction que vous m'avez appris à faire, j'en suis certain, n'était pas entre le jour et la nuit, ou entre le chaud et le froid, mais entre les goyes et les juifs. Or, il s'avère maintenant, mes chers parents, chers membres de ma famille, et chers amis ici réunis pour célébrer ma bar mitzvah, il s'avère, bande de crétins étriqués, ô combien je hais vos cervelles juives étriquées, y compris toi, rabbin Sibylle, avec ton complexe de supériorité absolument grotesque, c'est la dernière fois de ta vie que tu m'as envoyé chercher en secret au coin de la rue un autre paquet de ces cigarettes qui te font empester, au cas où personne ne te l'aurait encore dit, oui, tu empestes, et il s'avère que l'existence ne se borne pas tout à fait au contenu de tes écœurantes et stériles catégories, et au lieu de se lamenter sur celui qui refuse à l'âge de 14 ans de jamais remettre les pieds dans une synagogue, au lieu de gémir sur celui qui a tourné le dos à la saga de son peuple, pleurez donc sur vous-même, créature pathétique, qu'attendez-vous toujours à mâcher et à remâcher ces aigres raisins de la religion ? Juif, 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 elle me sort par les yeux, la saga douloureuse des juifs ! Rends-moi un service, mon peuple et ton douloureux héritage, foule-toi dans ton cul de douleur. Il se trouve que je suis également un être humain.
Tu as été élevé en bon juif. Mais enfin, c'est pas parce que je suis né comme ça que je... Non, je suis assez grand quand même pour prendre une décision adulte. Maman, maman, sors.
Bien sûr que Dieu existe, espèce d'imbécile. Tu ne crois pas en Dieu?
Mais enfin, si Dieu existe, pourquoi le mal fleurit partout dans le monde, hein? Tiens, voyons ça d'un point de vue simpliste. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des nazis?
Et comment veux-tu que je sache pourquoi il y a eu des nazis? Je sais même pas comment marche un ouvre-boîte.
Heureusement, sa sœur Anna vient tempérer les éclats de haine d'Alexander, découvrant enfin ce personnage resté dans l'ombre de la famille.
« Mais tu es juif, me dit ma sœur. Tu es un garçon juif plus que tu ne le crois. Et tout ce que tu fais, c'est de te rendre malheureux. Tout ce que tu fais, c'est de hurler dans le désert. » À travers mes larmes, je la vois qui m'explique patiemment ma situation, assise au bout de mon lit. Si j'ai 14 ans, elle en a 18. Elle est en première année au Newark State College. C'est une grosse fille au visage blême, transpirant de mélancolie par tous les pores. Tout ce qu'il me semble savoir d'elle se résume à quelques détails, plus bien entendu la taille et l'odeur de ses soutiens-gorge et de ses culottes. Quelles années de confusion! Et quand seront-elles finies? Pourriez-vous, s'il vous plaît, docteur, me donner une date approximative? Quand serai-je guéri de ce que j'ai? Sais-tu, me demande ma sœur, où tu serais aujourd'hui si tu étais né en Europe et pas en Amérique? Ce n'est pas la question, Anna. Mort, dit-elle. Ce n'est pas la question. Mort. Gazé ou fusillé, ou incinéré, ou égorgé ou brûlé vif. Tu sais ça? Et tu aurais pu hurler autant que tu aurais voulu que tu n'étais pas un juif, que tu étais un être humain et que tu n'avais absolument rien à voir avec leur stupide héritage de souffrance, on t'aurait quand même embarqué et liquidé. Tu serais mort et je serais morte aussi. Et mais ce n'est pas de ça que je parle. Et ta mère et ton père seraient morts. Mais pourquoi est-ce que tu te mets de leur côté? Je ne me mets du côté de personne, dit-elle. Je t'explique simplement qu'il n'est pas aussi ignorant que tu le crois. Elle ne l'est pas non plus, je suppose. Je suppose qu'à cause des nazis, tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait devient intelligent et génial. Je suppose que les nazis sont une excuse pour tout ce qui se passe dans cette maison. Oh, je ne sais pas, dit ma sœur. Peut-être que oui. Et maintenant, voilà qu'elle se met à pleurer aussi. Et quel monstre j'ai l'impression d'être, car elle pleure sur 6 millions d'êtres, enfin, je crois. Alors que moi, je ne pleure que sur moi-même. Enfin, je crois.
C'est une vieille histoire. Deux mamas juives du troisième âge prennent le verre dans les Catskills. La première dit « Mon Dieu, ce qu'on mange mal dans ces auberges de campagne !» Et l'autre ajoute « Oui, mais par contre, c'est pas copieux du tout. » Eh bien, moi, c'est exactement comme ça que je vois la vie. Un monument de solitude, de misère, de souffrance et de malheur. Et en plus, il faut bien dire que ça passe comme un déjeuner de soleil. L'autre blague importante pour moi, c'en est une qu'en général, on attribue à Groucho Marx, mais elle serait plutôt de Freud dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Ça donne un truc dans le genre, je paraphrase, hein. Je ne ferai jamais partie d'un club qui souhaiterait m'avoir moi pour membre.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around 12 o'clock tonight, put your glad rags on. Join me home, we'll have some fun. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When
Quelques mois plus tard, le jeune garçon a retrouvé son ardeur et s'adonne aux joies des activités de plein air. Après le baseball, un autre mythe américain hante notre adolescent en quête de reconnaissance, le patinage. En compagnie de jolies blondes aux minois parfaits, dénommées Chixé en yiddish, retrouvons Alexander sur le lac gelé de la commune voisine. Extrait du chapitre intitulé « Fou de la chatte ». Les Chixé. En hiver, quand les microbes de la polio sont en hibernation et que je peux miser sur mes chances de survie, je fais du patin à glace sur le lac d'Ivergun Park. Dans la lumière déclinante des fins d'après-midi, je décris cercle après cercle sur mes patins derrière les Chixé qui habitent Irvington, au-delà de mon amical et rassurant quartier juif. Entre les odeurs de la sueur mouillée et de la laine humide sur le ponton surchauffé et la vue de leurs mousseuses chevelures blondes cascadant sous leurs fichus et leurs bonnets, me voici en extase. Au milieu de ces filles gloussantes aux joues rosies, je boucle mes patins avec des doigts faibles et tremblants, puis je sors dans le froid, et à leur suite, je m'élance sur la glace derrière leur troupe virevoltante, un bouquet de Chixé, une guirlande de filles et de gentilles. Je suis à ce point submergé que je me sens au-delà de l'érection. Ma petite bite circoncise se ratatine tout bonnement de vénération. Comment peuvent-elles être aussi magnifiques, aussi éclatantes de santé, aussi blondes? Peut-être l'explication tient-elle à leur orgueil de Chixé. À moins qu'il ne s'agisse d'un orgueil de goy, car ce sont elles dont les frères aînés sont les demi de mêlée, affables, bons garçons, sûrs d'eux, propres, rapides et puissants, des équipes universitaires de football américain qui s'appellent Northwestern, Texas Christian et UCLA. Ces gens-là sont les Américains, docteur. Leurs noms sortent tout droit du manuel de lecture, non pas à Aaron ou Arnold ou Melvin, mais Johnny et Billy et Jimmy ou Todd. Non pas à Portnoy, mais Smith et Jones et Brown. Oh, l'Amérique, l'Amérique. Pour moi, enfant, l'Amérique est une Chixé, pelotonnée au creux de votre bras en murmurant « Amour, amour, amour ». Donc c'est le crépuscule sur le lac gelé d'un parc municipal. En patinant derrière le cache-oreille rouge rebondi et les bouclettes blondes d'une Chixé inconnue, j'apprends le sens du mot « désir ». C'est presque plus que ne peut supporter un petit garçon juif à sa maman, un gamin en colère de 13 ans. Pardonnez-moi ma complaisance, mais ce sont probablement les heures les plus poignantes de ma vie dont je parle. J'apprends la signification du mot « tourment ». Moi, c'est la vraie de vraie que je veux. Dans sa parka bleue et ses cache-oreilles rouges et ses grandes moufles blanches, Miss Amérique sur patin, avec sa branche de gui et son plum pudding, qu'est-ce que ça peut bien être ? Et sa maison individuelle avec une rampe et un escalier, et des parents tranquilles, patients et pleins de dignité. Oh, cette façon qu'elle aura de se blottir près de moi sur le canapé dans son pull-over angora, avec les jambes ramenées sous sa jupe écossaise. Et cette parfaite, parfaite inconnue qui est aussi lisse, aussi luisante et aussi fraîche que de la crème anglaise m'embrassera. Et mon nez et mon nom seront abolis. Voilà ce qui s'est finalement passé à Irvington Park. Un samedi tard dans l'après-midi, la vraie de vraie a terminé son dernier 8 et met paresseusement le cap sur le ponton et je n'ai rien fait pour l'aborder, ni elle ni aucune autre. Rien fait tout au long de l'hiver et maintenant le mois de mars est presque là, le drapeau rouge va bientôt interdire de patiner dans le parc et une fois de plus nous entrerons dans la saison de la polio et je n'aurai plus le droit de sortir. Peut-être même que je ne vivrai pas jusqu'à l'hiver prochain, alors qu'est-ce que j'attends? Maintenant ou jamais. Alors à sa suite, ou plutôt quand elle a disparu à une distance rassurante, je me mets à patiner comme un fou. « Excusez-moi, dirais-je, mais est-ce que vous me permettez de vous ramener chez vous ? De vous ramener ? Ou que je vous ramène ? Lequel est le plus correct ? Parce qu'il faut que je m'exprime dans un anglais absolument parfait, sans rien qui puisse révéler que je suis juif. » Mon nom, je m'appelle Alton Peterson, un nom que je m'étais choisi dans l'annuaire téléphonique du comté d'Essex. Complètement goy, j'en étais certain, et qui sonne un peu comme Hans Christian Andersen. Quel coup fumant. Je suis Alton Peterson, Alton Christian Peterson. ou bien ça allait un peu trop loin. Et me voilà si soucieux de ne pas oublier le personnage que je voudrais être en cet instant, si anxieux d'arriver au ponton pendant qu'elle est encore en train de se débarrasser de ses patins, et en même temps si préoccupé par la réponse à lui fournir si elle m'interroge à propos de la proéminence au milieu de ma figure, une vieille blessure de hockey, une chute de cheval après la messe un dimanche matin, si préoccupé donc que j'atteins le bord du lac avec la pointe d'un patin un peu plus tôt que prévu, et que je vais m'aplatir sur le sol gelé en me faisant sauter une dent de devant et me fracassant le sommet du tibia. Ma jambe droite est dans le plâtre de la cheville à la hanche pour 6 semaines. Une fois le plâtre enlevé, je traîne ma jambe comme un blessé de guerre pendant que mon père crie « Plie-la ! Tu veux rester comme ça toute ta vie ? Mais plie-la donc, voyons ! Marche normalement, Alex, ou tu vas te retrouver infirme pour le reste de tes jours. » Pour avoir patiné derrière les chixés sous un pseudonyme, je me retrouverai infirme le restant de mes jours. Avec une vie comme la mienne, docteur, qui a besoin de rêves ? Enfin, Alexander grandit et prend conscience de sa condition. Le temps a passé. Retrouvons Alexander adulte à l'âge de 33 ans. Devenu un brillant avocat à New York, il annonce à ses parents son départ prochain pour un voyage en Europe. Son père, qui prend de l'âge, et sa mère, toujours inquiète, s'opposent à ce projet et lui font du chantage affectif. L'enfant prodige se révolte contre leur amour délirant qui va jusqu'à le doter, lui, d'une toute-puissance fantasmée. Peu à peu, sa colère fait place à une certaine maturité et à une certaine empathie. Père, je t'en prie, ne cherche pas la raison pour laquelle ta vie est ce qu'elle est, pour en conclure que c'est Alex, parce que je ne suis pas l'alpha et l'oméga de l'existence des autres. Je refuse de me schlepper ce fardeau jusqu'à la fin de mes jours, tu m'entends? Je refuse. Cesse de trouver incompréhensible que je puisse m'envoler pour l'Europe à des milliers et des milliers de kilomètres alors que tu viens de passer le cap de 66 ans et que tu es prêt à casser ta pipe d'une minute à l'autre. Voyons, que pense-t-il au juste? Qu'avec moi dans les parages, ça n'arrivera tout simplement pas? Que je me précipiterai à ses côtés, lui prendrai la main et du coup le ramènerai à la vie? Croit-il vraiment que je détienne d'une façon ou d'une autre le pouvoir de détruire la mort? Que je sois la résurrection et la vie? Mon pauvre père, enchristifié, convaincu. Et il n'en a même pas conscience. Mais d'où nous vient donc à tous cette idée ridicule et absurde que je suis si puissant, si précieux, si indispensable à la survie de tous? Mais qu'avaient-ils donc ces parents juifs? Parce que je ne suis pas seul sur ce bateau, oh non, je me trouve sur le plus gros navire de transport de troupes en service. Jetez simplement un coup d'œil par le hublot et regardez-nous là, serrés comme des sardines sur nos couchettes, dans un concert de plaintes et de gémissements, nous apitoyant tant sur notre sort, les tristes fils aux yeux noyés de parents juifs, malades à crever à force d'être ballottés sur ces océans de culpabilité. C'est ainsi parfois que je nous imagine, moi et mes frères, en jérémiade, les mélancoliques et les arrogants encore à la barre comme nos ancêtres. Mais oh, malades, malades, malades comme des chiens. Et de temps à autre, l'un d'entre nous s'écrie « Pa, comment t'as pu faire ça ? Maman, pourquoi t'as fait ça ?» Et les histoires que nous nous racontons pendant que l'énorme navire roule et tangue, la surenchère à laquelle nous nous livrons, qui a eu la mère la plus castratrice ? Qui le père le plus ignare? Oh, mes amis juifs, mes frères de race à la bouche ordurière et bourrelés de culpabilité, mes chéris, mes copains, ce putain de bateau s'arrêtera-t-il jamais de tanguer? Quand? Quand que nous puissions cesser de nous plaindre d'être si malades et nous retrouver à l'air libre et vivre?
Mais c'est ravissant. Merci. Elle est gaie, cette pièce, hein?
Lui, il la déteste.
Mais comment ça? Je la trouve très bien.
Oh, il dit que ça fait trop juif.
Bah, tu dis des bêtises.
Tu es en train de perdre tes cheveux. Quand il était petit, il avait des cheveux roux. C'était magnifique. Il en avait honte. Dans le quartier, on l'appelait rouquin. Il détestait. Prends du pain et du beurre. C'est lui ici, oh. 19 mois oh, tout juste, qui a regardé ses petites fesses.
Maman, je t'en supplie, ça suffit comme ça. Oui.
Tout ce que j'ai dit l'embarrasse, tout lui fait honte.
Vivre, c'est dans l'espoir de réaliser enfin sa vie d'homme qu'Alexander s'envole pour la terre promise. Étudiant, notre héros a connu 3 histoires sentimentales avec des chixés au tempérament différent. Mais ces 3 expériences se sont soldées par des échecs cuisants. Comme je vais aimer grandir pour devenir un homme juif, se dit-il au moment de prendre l'avion pour Israël. À peine arrivé à Tel Aviv, le voici fasciné. N'est-ce pas fabuleux ? Un pays juif, Alex au pays des merveilles. Sur la plage, il fait la connaissance de Naomi, une belle jeune femme, militaire de carrière, et l'invite dans sa chambre d'hôtel. Mais entre eux, le ton monte et les choses dégénèrent. Extrait du chapitre intitulé « En exil ». Est-ce que tu sais, demanda-t-elle sans la moindre trace de charité, qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez toi ? Tu es la personne la plus malheureuse que j'ai jamais connue. Cette façon que tu as de dénigrer ta vie, pourquoi fais-tu ça ? Tu sembles ressentir une sorte de plaisir spécial, une certaine fierté à te prendre toi-même pour cible de ton étrange sens de l'humour, hein ? Toute la journée la même chose. Tout est plus ou moins ironique ou plein d'autodérisivité. C'est bien ça, autodérisivité ? Autodérision. Autodénigrement. Ouais, comme c'est stupide, cette autodérision. Comme c'est déplaisant. Oh, je ne sais pas, dis-je. Après tout, l'autodérision est une forme classique de l'humour juif. Pas de l'humour juif, non. De l'humour du ghetto. L'aube venue, elle m'avait fait comprendre que j'étais l'incarnation même de tout ce qu'il y avait de plus honteux dans la culture de la diaspora. Ce mot même la remplissait de fureur. Lorsqu'elle eut terminé, je déclarais « Merveilleux ! Maintenant, on baise ? Tu es vraiment répugnant !» Une petite lutte s'ensuivit, puis, d'une brusque détente du sommet du crâne, elle me cogna le dessous de la mâchoire. « Où as-tu appris ça, bon Dieu » hurlai-je. « Dans l'armée ?»« Oui. »« Ah, vaillante Sabra, va donc cultiver ta vertu dans tes montagnes, d'accord ? Va donc jouer les modèles pour l'humanité, sainte juive de mes deux. » « Monsieur Portnoy, » dit-elle en soulevant du sol son sac à dos, « vous n'êtes qu'un juif qui se hait lui-même. »« Ah, mais Naomi, c'est peut-être la meilleure espèce. » « Lâche, garçon manqué, schliemiel !» Et elle se dirigea vers la porte. Seulement, je lui bondis dessus par derrière, et d'un plaquage éclair, je fis basculer cette superbe rousse robuste et didactique sur le sol avec moi. Je lui montrai qui est schliemiel, moi. Voilà comment ça se passe dans la diaspora, mes petits saints. Voilà comment ça se passe en exil. Tentation et déshonneur, corruption et autodénigrement, gémissement, hystérie, compromission, confusion, maladie. Oui, Naomi, je suis souillée. Oh, je suis impure. Et aussi, j'en ai plein le cul, ma chère, de ne jamais être tout à fait assez bien pour le peuple élu. Mais quelle résistance elle m'a opposée, cette grosse péquenaude à la con, cet ex-GI, ce substitut maternel. Écoutez, est-ce possible ? Oh, je vous en prie, ça ne peut pas être aussi simpliste. Pas moi, parce qu'elle était rousse avec des taches de sang, cela ferait d'elle ma mère, selon mon inconscient monomaniaque. Voilà donc l'apogée du drame oedipien, docteur. Continuons la farce, mon ami. Naomi, ma déchéance et mon humiliation finale. Tu es cinglé, tu es un fou échappé de l'asile. Et elle essayait de me repousser de toutes ses forces qui étaient considérables. Non, oh non, lui dis-je avec un grondement guttural. Tu as besoin d'une leçon, Naomi. Et je pesais sur elle, pesais de tout mon poids pour lui donner cette leçon. Mais bien entendu, je ne pouvais pas. Je lui léchais les oreilles, suçais son cou palavé, enfonçais mes dents dans ses nattes. Et puis, alors même que sa résistance commençait peut-être à faiblir sous mes assauts, je m'écartais d'elle et m'immobilisais, vaincu, contre le mur, sur le dos. « Inutile, dis-je. Je ne peux pas bander dans ce pays. » Elle se releva, se tint plantée au-dessus de moi, reprit son souffle, baissa les yeux sur moi. L'idée me vint qu'elle allait écraser la semelle de sa sandale sur ma poitrine. Je me revis petit écolier en train de coller tous ses œillets dans mon classeur. Comment en suis-je arrivé là ? Impuissant ! En Israël ? Ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Encore une plaisanterie ? Elle eut alors une parole charitable. Tu devrais rentrer chez toi. Des rêves. Si seulement ça avait été des rêves. Mais je n'ai pas besoin de rêves, docteur. Parce qu'à la place des rêves, j'ai cette vie. Docteur, je n'arrivais pas à bander dans l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous dites de ce symbolisme ? Naomi, ma déchéance et mon humiliation finale.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. I got my mojo working, just for work on you. I got my mojo working, just for work on you. Won't you love me till I don't know what to do? Country, find a mojo hand, have all these pretty women dancing my command. I got my mojo working, just won't work on you.
what to do. I got a gypsy woman, give me advice. Got lots of little secrets that I got to keep on ice. I'm on a mojo working, just won't work on you. I got so much trouble, I don't know what to do. Got my mojo working, got my mojo working, I got my mojo working, I got my mojo working, got my mojo working, I got my mojo working, I got my mojo working, but don't work on you.
Pour clore cette émission, revenons à un moment plus apaisé du récit d'Alexander. Peut-être le mot de la fin est-il ce mot prononcé dans la tourmente de l'extrait précédent. Et si tout cela n'était que farce, ou kvesh en yiddish? Est-ce là le secret de l'humour juif? Voici par quel pied de nez Philippe Roth répond à ses détracteurs. Vérité ou fiction? Ni l'un ni l'autre, mais le rire comme seul salut. Oh là là, combien j'ai accumulé de griefs. Combien j'abrite de haine dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Est-ce là le processus de l'analyse, docteur? Ou ce que nous appelons le matériau? Je ne fais que me plaindre. L'aversion semble infinie chez moi. Et j'en viens à me demander si ça ne commence pas à bien faire maintenant. Se peut-il que j'ai vraiment détesté cette enfance et honni mes pauvres parents avec la même virulence qui semble m'habiter aujourd'hui? Ce que je me remémore mon passé avec le recul que j'ai à présent et que je n'ai pas. Est-ce la vérité que j'exprime ou n'est-ce que pur et simple kvesh? Ou alors le kvesh est-il pour des gens comme moi une forme de vérité? Quoi qu'il en soit, ma conscience souhaite faire connaître, avant que je ne recommence à râler, qu'à l'époque, mon enfance n'était pas cette chose qui me semble si étrangère et haïssable aujourd'hui. Je ne me rappelle pas avoir été de ces gosses qui passaient leur temps à souhaiter vivre sous un autre toit avec d'autres gens. Après tout, où pourrais-je trouver ailleurs un public comme ces deux-là pour mes imitations? Je les faisais se tordre de rire au cours des repas. Une fois, ma mère a réellement mouillé sa culotte, docteur. Et prise d'un fou rire hystérique, elle a dû courir à la salle de bain sous l'effet de mon pastiche de Mr. Kitzel dans le Jack Benny Show. Quoi d'autre? Des promenades? Des promenades avec mon père dans Wickwick Park le dimanche, que je n'ai pas encore oublié. Voyez-vous, je ne peux pas aller faire un tour à la campagne et trouver un gland par terre sans penser à lui et à ses promenades. Et c'est pas rien, près de 30 ans après. N'est-ce pas, docteur?
Mes parents ne parlaient jamais du passé et ils ne nous racontaient aucun souvenir. Il ne rêvait que d'une vie à l'américaine.
Philippe Roth.
Il n'y avait donc aucune nostalgie pour le pays de leur origine. On n'en parlait pas. Je n'ai jamais entendu le moindre mot sur ce sujet. J'aurais pu en parler avec mes grands-parents, mais ils ne parlaient que yiddish. Et je ne parlais qu'anglais. Mon frère est né le premier en 1927. Ma mère n'avait que 23 ans et je suis né en 1933, quand elle en avait 28. Elle n'a jamais fumé ni bu la moindre goutte d'alcool. Elle avait une énergie incroyable, une volonté incroyable. Vous connaissez ce mot de Freud, celui qui est aimé par sa mère sera un conquistador.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Pascal Ménard. Elle a été préparée par Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.